France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour avec la presse sous l'air Trump ce soir.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news. And I don't mind that so much.
Donald Trump, deux jours avant sa réélection, ça se passe en Pennsylvanie, deux jours avant le 5 novembre. Depuis sa tentative d'assassinat, il est désormais derrière une vitre et il dit, pour me tirer dessus, pour m'atteindre, il faudrait d'abord tirer sur les fake news, donc sous-entendu sur les journalistes, et ça ne me dérange pas du tout. Bonsoir Roger Cohen.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes le chef du bureau de Paris du New York Times. La presse, Donald Trump, dit même, s'agissant de certains médias, hein, qu'ils sont les ennemis du peuple. Comment on se prépare quand on est le New York Times? Qu'est-ce qui se prépare, peut-être comme jamais auparavant, au New York Times?
Ben, le fake news, c'est peut-être la phrase de Donald Trump qui a eu le plus de succès dans le monde entier.
Mm-hmm.
Je veux dire, ça collait. Tout le monde connaît cette phrase désormais et son hostilité envers les médias indépendants, comme le New York Times, libéraux, mm-hmm. comme le New York Times, a été, dès le début, forcené. Ben, comment est-ce qu'on se prépare? On se prépare en défendant nos valeurs, mm-hmm. en restant déterminé à être indépendant. C'est quoi indépendant? Ben, c'est poursuivre les faits, et non pas les choses imaginées, tenter d'être juste, enfin d'écouter tout le monde, et puis d'arriver à raconter les choses de la façon la plus juste possible. C'est vrai que l'environnement est plus difficile que peut-être que jamais.
Après 2016, le New York Times avait gagné des millions d'abonnements, des milliers d'abonnements. Vraiment, c'était un chiffre énorme. Gagner des abonnés avec une couverture qui était une vraie couverture implacable, mais au fond, au point qu'on vous a presque confondu avec un organe de résistance. Et moi, j'ai l'impression que dans le monde qui nous arrive aujourd'hui, et la manière qu'on a de raisonner et de parler, on se dit que c'est bien le risque, en fait, avec des hommes comme Trump au pouvoir, qui résonne avec moi ou contre moi. Et c'est ce qui risque de vous arriver. Vous serez considéré comme un organe de résistance auprès de l'administration Trump, que vous le vouliez ou non.
Bah, c'est pas notre but d'être un organe de résistance. Et d'ailleurs, il y a eu des discussions assez fortes à l'intérieur
c'est
du
vrai?
Journal sur ce fait même.
Mmh.
Non, comme je viens de dire, on est un journal indépendant et on va critiquer la Maison-Blanche quand c'est justifié. Et on a été clair, à la différence du Washington Post, mmh. ou du Los Angeles Times avant l'élection, que le New York Times favorisait, était à faveur de l'élection de Kamala Harris. Or, ça n'a pas eu lieu. Tout le monde s'est trompé en 2016, tout le monde s'est trompé en 2024, un peu moins mm-hmm. peut-être, mm-hmm. c'est-à-dire tout le monde prévoyait une élection très serrée, ça ne l'était pas. Mais je pense que le journal est très conscient de cette accusation d'être un organe de résistance. Et nous essayons, comme je viens de dire, de non pas de toujours trouver l'histoire qui est contre Trump, mais simplement de raconter ce qui se passe dans le pays avec un leader qu'on le sait et souvent change d'idée, impulsif, souvent incohérent, qui veut acheter le Greenland, qui veut absorber le Canada, mm-hmm. qui veut renommer la Golfe du Mexico la Golfe d'Amérique, qui veut prendre possession du canal de Panama. Et ça, c'est seulement une journée de la semaine dernière. Donc, une autre chose dans tout ça, c'est qu'on l'a déjà vécu, tout ça.
Mais...
on l'a vécu. Donc, être aussi en colère, indignant, ou je ne sais pas quoi, une deuxième fois, c'est un peu difficile. Il y a un effet... on l'a déjà vu, quoi. On connaît ce cinéma.
Il y avait deux choses en 2016. D'abord, vous parliez du Washington Post. On se souvient très bien que le Washington Post calculait les mensonges. Et puis, on s'est vite rendu compte, au fond, que c'était presque contre-productif, en fait. Exactement pour la raison qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, aux yeux des équipes trumpistes, ils étaient, pour ça, considérés comme un organe de résistance et comme appuyant trop fort sur Donald Trump. Vous parlez de dialogue que vous avez eu au New York Times, résistance par résistance. On vous accuse accuse même d'aller beaucoup plus loin. On vous dit vous êtes le média wokiste, etc. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça implique qu'il faudra aussi faire rentrer dans vos colonnes d'autres voix, d'autres points de vue? Je vous pose la question, vous l'avez sûrement lu comme moi, à cause de ce texte de Peter Thiel, icône de la Silicon Valley aux yeux de beaucoup, dans le Financial Times.
Un texte assez déléant, je trouve.
Exactement. Est-ce que ce genre de texte, par exemple...
Si j'ai bien compris, ce n'était pas évident de le comprendre.
Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que, typiquement, le New York Times pourrait ouvrir ses colonnes à un texte de ce type-là?
Fabienne, ce n'est pas qu'on parle d'une seule voix. Hein. Mm-hmm. Si vous lisez le New York Times, vous allez voir plein de voix différentes. Je pense qu'on a même fait un effort ces derniers temps d'élargir les perspectives qu'on peut trouver dans le journal. Et c'est absolument pas notre but d'avoir une seule voix unique, non. Tout le contraire. Donc, mais l'idée est là, elle est fixée chez des gens comme Peter Thiel ou beaucoup d'autres, que voilà, tous ces journaux
cachés,
qui en font la
choses,
grandeur de la presse américaine, le New York Times, le Washington Post, que leur temps a passé. Or, moi je crois que croire que le temps est passé est très dangereux. On n'a qu'à regarder des pays qui sont allés dans des directions plus autoritaires. Dernièrement, je pense par exemple à l'Hongrie ou à l'Inde, pour savoir qu'un des premiers pas d'un leader qui veut agir d'une façon autoritaire, sans contrainte, c'est d'éliminer ou de beaucoup réduire la presse indépendante. Il n'y a pas de démocratie qui fonctionne, à mon avis, ou qui peut fonctionner bien sans une presse libre.
Il y a un certain nombre d'observateurs qui craignent au fond que la presse, pour survivre, se censure elle-même. J'ai retenu cette phrase d'un monsieur qui s'appelle Olivier Knox, qui est cité dans La Croix hier ou aujourd'hui, et qui dit, c'est l'ancien dirigeant de l'association des correspondants de la Maison-Blanche, et qui dit « Trump n'a pas changé, c'est plutôt la presse qui me fait peur ». Et pour argumenter sa phrase, il parle du Washington Post, effectivement, qui ne prend pas position, du LA Times qui ne prend pas position pendant la campagne, il parle des deux présentateurs de MSNBC, qui est une chaîne de télé réputée à gauche, très démocrate, qui sont allés tous les deux voir Donald Trump en se disant que il fallait peut-être recoller avec le personnage. Qu'est-ce qu'on dit de ça?
Il y a aussi ABC News qui a décidé de payer 15 millions de dollars à une fondation que Donald Trump est en train de lancer.
Accusé de diffamation.
Au lieu de défendre George Stephanopoulos d'ABC contre l'accusation de diffamation parce que...
Et c'est un excellent exemple, Roger Cohen, parce qu'un exemple de diffamation, enfin, le Premier Amendement est majeur aux États-Unis.
C'est très difficile qu'en Europe, aux États-Unis, de prouver la diffamation. Parce que c'est non seulement la question de la phrase même, mais est-ce que l'intention était vraiment, diffamer quelqu'un, ce qui est très difficile à prouver.
Et pourtant, ils y vont.
Il faut constater que Donald Trump a eu plus de 2 millions de voix plus que Kamala Harris, qu'il a gagné à la fin facilement, qu'il a ce courant actuellement aux États-Unis. Et bon, il faut choisir ses batailles. Ceci dit, je ne pense pas qu'il faut être méfiant, il faut être vigilant surtout, et nous, on va continuer à faire notre métier d'une façon aussi déterminée que dans le passé. Quoi.
Ils disent, les équipes de Trump, qui vont attaquer devant les tribunaux, Bob Woodward pour une histoire de d'enregistrement, donc c'est le Washington Post, CBS pour une interview de Kamala Harris qui aurait été tronquée, il y a beaucoup de choses de ce genre-là, donc ce qu'on sent bien, c'est...
Ils portent plainte contre le Des Moines Register, parce qu'ils ont publié un sondage qui montrait que Kamala Harris allait gagner dans l'État d'Iowa, or Donald Trump a gagné facilement.
À 13%.
C'est comme si Donald Trump... Je suis sûr qu'il pourrait être capable de porter plainte s'il y a un journal à l'inauguration qui dit que la foule était de, 400 000 personnes, quand il maintient que c'était 1,2 million. Je veux dire, Fabienne, on le sait tous, il invente des choses.
Mais absolument.
Et si on se contraint au fait, il est possible qu'il va vous viser.
La question que je me pose,
de façon légale.
Et je vois bien la méthode, en fait. Et la méthode, c'est de faire des procès constamment. Donc, ça veut dire de décrédibiliser, ça veut dire...
De faire peur.
De faire peur, de jouer le harcèlement.
Il y a beaucoup plus de peur aux États-Unis qu'il y en avait il y a quelques années.
Et du coup...
Il y a des gens qui hésitent à parler. Il y a une ambiance de peur... qui se répand.
Et donc de censure.
Et là aussi, il faut être très vigilant.
Et donc d'autocensure dans la presse, Roger Cohen, c'est aussi ça que ça veut dire ou pas ?
Ben, quand il y a peur, ça peut mener à l'autocensure. Mais moi, personnellement, je crois fermement que nous, on va pas tomber dans ça. Mm-hmm. Mais quand il y a une ambiance de peur, les gens hésitent parce qu'ils pensent que le lendemain, ils vont recevoir des autorités fiscaux une demande d'audit ou pire, qu'en porte-procès. Le président est puissant aux États-Unis. Et Donald Trump, maintenant, il arrive au pouvoir pour la deuxième fois et dernière fois, en théorie au moins. Donc, s'il veut faire des choses absolument radicales, c'est maintenant qu'il va tenter de les faire.
La dernière fois, en 2016, au New York Times, vous aviez embauché du monde, parce qu'il fallait le tenir à la culotte, Donald Trump. C'est aussi pour ça que vous avez fait la couverture.
On n'a jamais eu autant de journalistes qu'aujourd'hui.
Exactement. La question que je me posais, c'est si... On recommence en 2020, effectivement. Enfin, on embauche pour ces raisons-là. Et aussi, Roger Cohen, exactement après ce que vous disiez, si on embauche aussi des avocats, parce qu'il va bien falloir effectivement se battre, donc on prépare ses armes.
Ne vous inquiétez pas, on a une équipe d'avocats tout à fait capable, très capable, je dirais.
Il y a une autre chose que j'ai trouvée assez édifiante en préparant cette émission, c'est Jan Crawford, qui travaille pour CBS News, qui a fait une sorte de mea culpa. Et elle a dit ceci. Elle a dit, nous avons insisté sur le fait que Joe Biden pouvait se présenter à l'élection, c'était avant qu'il ne laisse la place. Nous aurions dû poser la question de manière bien plus pressante de savoir s'il était capable d'assumer les fonctions présidentielles pour 4 ans de plus, etc. Donc, ce qu'on sent aussi, c'est un terrain préparé, en fait, par certains journalistes. Pardon, là, on s'est trompé, on le fera plus, c'est promis.
Bah, écoutez, elle n'a pas tort. Hein. On avait l'impression que Joe Biden était en pleine possession de ses moyens beaucoup de temps après le moment où ce n'était plus le cas, et ce qui s'est révélé de façon désastreuse dans le fameux débat où
et vous avez
souvent
été
il n'arrivait pas à finir une phrase.
Vous avez été les premiers d'ailleurs au New York Times
Journal,
à dire partez.
Je dois dire, avait fait un article deux mois auparavant disant justement qu'il n'était plus tellement en possession de ses moyens. Mmh. La Maison-Blanche a explosé, a dit qu'il n'y avait pas de preuves de ça. Mmh. Et écoutez, en fait, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux ? Certainement. Mmh. Mais ceci ne veut pas dire qu'on ne va pas faire... continuer à faire des enquêtes rigoureuses sur la Maison-Blanche de Donald Trump.
Cette atmosphère-là, dernière question rapidement. Roger Cohen, vous avez déjà connu cette atmosphère-là dans votre métier, dans votre pratique de votre métier, sincèrement ?
Je pense que Donald Trump, c'est un phénomène différent. On ne va pas oublier, peut-être que certains vont oublier, ont déjà oublié le 6 janvier, où le Congrès a été envahi. Mmh. Dans une protestation que Donald Trump voulait bien, parce qu'il ne croit toujours pas au résultat de l'élection de 2020. Qu'est-ce que c'était ? C'était une tentative de renverser notre démocratie. Ça non, j'ai pas vécu. Donc oui, on vit un moment dangereux. Ceci dit, il faut attendre, il faut voir. Rien n'est fait avant que c'est fait. Et moi, je ne vois pas de raison de croire que Trump 2 va être très différent de Trump 1, ou seulement dans un sens d'être plus radical. Donc oui, c'est le moment pour la vigilance journalistique à l'extrême.
Je vous remercie, Roger Cohen. Je vous laisse avec cette phrase de Don Jr., c'est le fils de Donald Trump, qui vient d'annoncer aujourd'hui qu'il avait rejoint une société de paris en ligne qui s'appelle Kalshi. Il dit ceci, le soir de l'élection présidentielle, alors que les médias biaisés parlaient d'une course serrée, ma famille et mes amis ont utilisé les cotations de Kalshi et ont su que nous avions gagné des heures avant les journalistes menteurs. fermez les guillemets, vous souhaite bon courage. Roger Cohen, merci beaucoup.
Je pense pas que la famille Trump devait parler de menteur.
Eh ben, écoutez, à bientôt. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La suite ce soir, ça se passe à Auroville. C'est en Inde que devient cette ville utopique née après 1968. Et pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Brésil, un athlète olympique la joue sauveteur en mer.
Le Monde à 18h50. Franck Madvon, bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. La tension monte entre la France et l'Iran.
La BO du monde, c'est vous Cyril Sauvageau. Salut Cyril.
Bonsoir. Avec les incendies de Los Angeles, c'est une capitale de l'industrie musicale qui est touchée en plein cœur. Des centaines d'artistes font partie des sinistrés.
Allez, la suite passe par Perpignan avec de Liminianas, Prisoner of Beauty. C'est en playlist sur France Inter. Le reportage d'un jour dans le monde est en Inde ce soir dans cette ville au nom évocateur qui sonne comme l'une des plus grandes et anciennes utopies urbaines. Auroville, née près de Pondichéry, née en 1968 évidemment, qui compte 3500 Auroviliens qui ont transformé son terrain aride en un havre de verdure dédié à l'écologie, à l'entraide, au yoga, au dépassement du capitalisme. Mais depuis 3 ans, le gouvernement indien a décidé de reprendre la main sur ce cadre idyllique à grands coups de chantier et d'expulsion. Auroville n'est plus que l'ombre d'elle-même, le reste c'est comme Bastin qui raconte.
Nous sommes à Darkali, une des plus anciennes et appréciées forêts d'Auroville, où Lata Iyer, une géographe indienne, nous a donné rendez-vous.
Auroville est née sur un plateau désertique. Il n'y avait aucun arbre. Tout ce que vous voyez est une forêt qui a été régénérée. Deux pionniers se sont installés ici à l'époque. Ils ont construit une cabane et se sont mis à planter, tout simplement. Vous pouvez voir comme ils ont fait de cet endroit un oasis. Et maintenant, nous allons voir comment il est détruit.
Lata Iyer a découvert Auroville en 1984 avant de s'y installer définitivement en 2003. Elle nous guide entre de grands arbres, dont le mythique banyan indien. Et puis, sans transition, on tombe sur un corridor de terre boueuse.
Ici, vous pouvez voir ce qu'ils ont fait. On dirait une carrière ou une mine à ciel ouvert. Et puis, cette route ne mène nulle part. Même sur les portions de route qui sont terminées, on ne voit aucun véhicule. Parce qu'il y a très peu de trafic à Auroville. Ici, il y avait un lac qui servait à capter les eaux. Pourquoi construire une route surélevée à cet endroit ?
Depuis 2021, une nouvelle secrétaire a été nommée par le gouvernement à la tête d'Auroville. Elle a entrepris de grands chantiers dans ce lieu qui s'était jusqu'alors construit en harmonie avec la nature. C'est le cas autour du Matri Mandir, bâtiment iconique d'Auroville, en forme de sphère dorée dédiée à la méditation. Lucas Paulet, un Français de 28 ans.
On voit quand même qu'il reste quelques arbres malgré tout. Mais il y a eu un grand chantier avec le lac du Matri Mandir qui a laissé tout cet tas de terre qui rend un peu la scène un peu apocalyptique. Et avec le cyclone qui vient de passer, c'est devenu justement un désastre où on a vu beaucoup de coulées de boue, des situations avec ces nouveaux chantiers qui sont assez dangereuses.
Satyakam s'occupe de Kalpana, un ensemble de logements écologiques récemment sorti de terre à Auroville, de beaux bâtiments blancs aux formes arrondies autour d'un grand jardin partagé, une architecture qui reflète les préoccupations environnementales d'Auroville.
Chaque appartement ouvert sur quatre côtés. C'est la définition en fait d'une maison individuelle. Nous avons voulu aussi utiliser des matériaux isolants et donc il y a une excellente ventilation. Nous ne pouvons pas installer l'air conditionné, ce n'est pas nécessaire. C'est un petit peu une micro-image de ce qui pourrait se passer quand toute la ville sera construite.
Comme d'autres, Satyakam est partisan d'une croissance urbaine plus rapide d'Auroville. Il a un temps été séduit par le discours de la secrétaire Jayanti Ravi, prônant le lancement rapide de nouveaux chantiers. Mais comme beaucoup, il est aujourd'hui critique de sa façon brutale de gouverner.
Il n'était pas possible de développer rapidement. Et la secrétaire, elle s'est dit, dans ces conditions-là, je prends les choses en main, va à l'encontre de l'idéal, que c'est les Auroviliens qui doivent gérer et construire Auroville. Donc aujourd'hui, je me mets en retrait par rapport à mon enthousiasme du départ.
Ceux qui se sont opposés trop ouvertement au plan du gouvernement ont rapidement été exclus des différents organes de gouvernance d'Auroville, voire exclus d'Inde dans le cas des étrangers dont certains ont vu leur visa non reconduit. Aujourd'hui, la peur règne dans cette cité, raconte Lucas Paulet.
On est entré dans une phase de loi martiale, de forcer les résidents à participer à des sortes de centres de rééducation. On dicte aux résidents ce qu'il faut faire et comment, dans une atmosphère qui est de moins en moins la vision originale unie et dans une vraie collaboration.
Certains ici confient préparer leur départ au vu de la détérioration de l'environnement dans tous les sens du terme. Mais ces départs se font souvent sans filet, la plupart ayant travaillé bénévolement pour Auroville, parfois pendant des décennies. Les promoteurs, eux, récupèrent de plus en plus de terrains d'Auroville qui ont pris beaucoup de valeur grâce au travail des bénévoles.
Comme Bastin pour le reportage, merci. Comme beaucoup, l'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
Et c'est d'abord en Corée du Sud que nous sommes avec une augmentation de salaire.
Et pas n'importe lequel, celui du président de la République, Yoon Suk-yeol. Sa rémunération va augmenter de 3% cette année, au même titre que celle de l'ensemble des fonctionnaires sud-coréens. 14 416 euros désormais, soit 400 euros de plus par mois, ce n'est pas rien. Sauf que, pourquoi en parle-t-on ? Eh bien parce que Yoon Suk-yeol est suspendu de ses fonctions depuis un mois maintenant, depuis qu'il a tenté d'imposer la loi martiale pour faire passer son budget. Le Parlement l'a destitué. Son procès en destitution commence d'ailleurs demain. Et il y a 10 jours, il a refusé de se rendre pour être interrogé malgré un mandat d'arrêt. Voilà donc un petit scandale de plus pour le président ultra-conservateur qui ne peut pas être privé de salaire parce qu'il est dans une situation un peu bâtarde. Il n'est plus président, mais il conserve son statut jusqu'à ce que la justice proclame la destitution, ce qui ne sera pas le cas avant plusieurs mois.
Nous voici au Nigeria où l'armée est à nouveau mise en cause.
Après la mort d'au moins 16 civils hier dans une frappe aérienne dans l'état de Zamfara au nord-ouest du pays, une frappe accidentelle, mais la deuxième en 2 semaines seulement, puisque le jour de Noël, une frappe similaire a fait des morts civiles dans l'état voisin de Sokoto. L'armée a touché 2 villages alors qu'elle visait des djihadistes. Ces frappes sont menées habituellement contre ce que les autorités appellent les bandits, des groupes criminels qui terrorisent les habitants de cette région du Nigeria. Pillages, meurtres et enlèvements sont leur mode d'action, d'où la réponse militaire. Hier, les habitants venaient justement de chasser les assaillants de leur village quand l'avion de chasse les a bombardés. Des dizaines de blessés graves n'ont pas accès aux soins, selon Amnesty International, qui demande l'ouverture d'une enquête aux autorités nigérianes.
Et puis nous sommes au Brésil avec un sauvetage.
Oui, heureusement qu'il était là, Bruno Lobo, ce kitesurfer demi-finaliste des JO de Paris, s'entraînait au large d'une plage de São Luís dans le nord du pays. Alors qu'il file sur sa planche tractée par une voile, il entend des cris. Bruno Lobo a une caméra installée sur son matériel et sur les images qui font le tour des médias et des réseaux sociaux. On n'entend pas grand-chose, comme vous pouvez le constater, mais on le voit faire un demi-tour très rapide. Une fois arrivé à hauteur d'une femme qui est manifestement en train de se noyer, il se met à l'eau pour qu'elle s'accroche à ses épaules. Puisqu'il est en kite, il doit donc garder une main sur sa planche pour ne pas qu'elle file et continuer de tenir sa voile avec l'autre. Il a finalement réussi à ramener la jeune femme au bord. « J'ai seulement fait mon devoir », a-t-il dit ensuite, en profitant pour rappeler sur ses réseaux sociaux que la mer est, je cite, « très dangereuse » et que la marée peut t'emmener bien loin de la plage.
Merci beaucoup, Kevin. Vous partez avec les mythiques Portishead, Sometimes. Ça date de 1994.
Belle année.
Sometimes sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde, le monde à 18h50, c'est Franck Madjour.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, le troisième détenu français en Iran, sort de son anonymat. Olivier Grondeau, en prison depuis octobre 2022, raconte son épuisement dans un témoignage qui a été diffusé ce matin sur Inter. La France conditionne une levée des sanctions contre Téhéran à la libération de ce qu'elle appelle des otages. Et ce soir, vous nous dites pourquoi Paris durcit le ton.
Oui, la France est souvent apparue, Fabienne, ces dernières années, plutôt conciliante avec l'Iran. Lors du premier mandat de Donald Trump, Emmanuel Macron cherchait à tenir un rôle de médiateur entre Téhéran et Washington. À l'automne 2022, il a même été critiqué pour avoir serré la main à New York de l'ancien président iranien Raisi, peu après la mort de Mahsa Amini, qui avait, vous le savez, déclenché un vaste mouvement de contestation en Iran. Les temps ont changé et la révélation, ce matin, par la rédaction internationale de Radio France, de l'identité du troisième Français détenu en Iran, en est aussi une illustration. Le Quai d'Orsay a laissé faire. Olivier Grondeau, emprisonné à Evin, veut médiatiser son cas. Il se trouve dans la même situation que Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis près de 3 ans, eux aussi sans raison, selon leurs proches.
Les autorités françaises, Franck, changent donc de stratégie avec l'Iran.
Oui, elles se montrent plus offensives. La France a convoqué vendredi dernier l'ambassadeur d'Iran pour dénoncer la situation de ceux qu'elle présente comme des otages d'État. Elle estime que leurs conditions de détention peuvent s'apparenter à de la torture. On le sait, l'Iran pratique ce qu'on appelle la diplomatie des otages. La République islamique arrête des ressortissants étrangers et s'en sert parfois comme monnaie d'échange. On vient de le voir avec la journaliste italienne Cecilia Sala, libérée par l'Iran après 3 semaines à l'isolement. Hier, et ce n'est pas une coïncidence, Rome a relâché un Iranien détenu en Italie, accusé d'avoir fourni de la technologie militaire à Téhéran.
Donc l'Iran souhaiterait aussi aussi un accord avec la France ?
Aucune évidence à ce stade, à ce sujet, mais en détenant trois Français, Téhéran peut faire pression sur Paris, conserver en quelque sorte un atout dans sa manche, au cas où. L'Iran compte ainsi une quinzaine de prisonniers occidentaux, une germano-iranienne a été libérée hier. Cette diplomatie des otages permet au régime d'envoyer des messages au peuple en cette période de crise économique. Le danger vient de l'étranger, méfiez-vous. Pour toutes ces raisons, la France demande à ses ressortissants de ne surtout pas aller en Iran, trop risqué. Paris a par ailleurs du mal à identifier des interlocuteurs. Il y a en Iran beaucoup de centres de pouvoir qui se font souvent concurrence entre eux. C'est ce qui rend d'ailleurs l'analyse de ce pays si hasardeuse.
Et la France a d'autres raisons de s'inquiéter de l'Iran aujourd'hui.
La France l'a dit, Emmanuel Macron l'a dit la semaine dernière, il présente l'Iran comme le principal défi stratégique et sécuritaire au Moyen-Orient. La France se méfie de son influence dans la région, même si les soutiens de l'Iran ont subi de sérieux coups, les pertes du Hezbollah au Liban, la chute de Bachar al-Assad en Syrie. C'est sans doute en fait le programme nucléaire iranien qui représente désormais la plus grande source d'inquiétude. Même si Téhéran s'en défend, sa nature militaire ne fait plus de doute. Le temps pour obtenir la bombe se compte en semaines. Les Européens, France, Allemagne, Royaume-Uni ont repris les discussions à ce sujet aujourd'hui en Suisse. Mais à une semaine de l'investiture de Trump, à un moment où Israël montre les muscles, rien ne semble en mesure d'atténuer cette crise avec l'Iran, la plus grave sans doute depuis plus de 30 ans.
Franck Madvon, merci beaucoup. À demain, le lundi, c'est Cyril Sauvageau qui écoute Le Monde Tourner. C'est la BO du Monde.
France Inter, le 18-20.
PO du Monde, Cyril, ce soir à Los Angeles, toujours en proie aux incendies. On commence à peine à mesurer l'ampleur des dégâts, mais d'ores et déjà une certitude, un grand nombre de musiciens et de professionnels de la musique font partie des sinistrés.
Et tous ne sont pas des multimillionnaires, loin de là, même si les images d'Hollywood en flammes ont pu laisser penser le contraire. Sur les réseaux sociaux, on a vu circuler ces derniers jours pas mal de vidéos des incendies, avec en guise de bande-son ce titre du groupe new-yorkais Public Enemy. Kick some slang out. All right, fellas, let's go hang out. Hollywood or would they not make us all look bad like I know they had? But some things I'll never forget, yeah. So step and fetch this shit. For all the years we looked like clowns, the joke is over. Smell the smoke from all around. Burn Hollywood Burn, un morceau de 1990 ressorti des tiroirs par des internautes pas toujours bien intentionnés. Parce qu'au départ, ce texte n'a absolument rien à voir évidemment avec les incendies. C'est une critique au vitriol du système hollywoodien accusé de ne pas faire suffisamment de place aux Afro-Américains. Le leader de Public Enemy, Chuck D, a donc tenu ce week-end à remettre les pendules à l'heure avec cette déclaration « Arrêtez d'utiliser notre chanson, elle n'a rien en commun avec ces familles qui ont tout perdu dans les flammes. »
C'est pas pareil.
Ça, c'est un extrait de la BO du film musical Wicked, sorti au cinéma il y a quelques semaines. La musique est sautillante, mais l'histoire est tragique. Le producteur de cette bande originale, Greg Wells, fait partie des sinistrés à Los Angeles. Son studio d'enregistrement à Palisades est parti en fumée, comme son logement situé à proximité. Ils sont nombreux, comme lui, à travailler dans des studios à domicile. C'est le cas également du célèbre ingénieur du son Bob Clearmountain, qui a tout perdu en quelques heures.
Et il faut rappeler, Cyril, que les quartiers les plus touchés hébergent un très grand nombre de musiciens.
Los Angeles, c'est bien connu, est l'une des capitales mondiales de la musique. Et c'est vrai depuis les années 60. À l'époque, le quartier de Laurel Canyon devient un haut lieu de la culture hippie, fréquenté, habité par les Doors, Buffalo Springfield, Johnny Mitchell ou encore les Mamas and the Papas. Et Les collines boisées de Laurel Canyon, refuge préféré des babacools depuis les 60s, le quartier, devenu beaucoup plus chic et privilégié aujourd'hui, a failli être dévasté par les incendies la semaine dernière, mais pour l'instant, le pire a été évité. En revanche, dans les quartiers de Palisades et de Altadena, les dégâts sont considérables et c'est tout un écosystème artistique qui se retrouve touché en plein cœur, puisque plusieurs milliers de personnes liées au monde de la musique vivent et travaillent dans ces quartiers. Un drame personnel parmi d'autres, celui vécu par Zachary Cole Smith, le chanteur qu'on entend ici du groupe indie rock DIIV, sa maison détruite par les flammes. Il s'est retrouvé à la rue avec femme et enfants hébergés dans un centre d'urgence.
Et pour lui venir en aide, à lui et aux autres dans la même situation, un fichier en ligne rassemble tous les sinistrés ayant un lien avec l'industrie musicale.
Déjà une centaine de noms répertoriés, on y croise pêle-mêle un roadie de Billie Eilish, un guitariste des Foo Fighters, des attachés de presse ou employés de maison disque avec à chaque fois un lien vers des sites de financement participatif. Partout, la solidarité s'organise et prend différentes formes. Un fonds $1 million vient d'être mis en place par les organisateurs des Grammy Awards. Un magasin de guitares propose de remplacer gratuitement le matériel détruit. Et un concert de charité est annoncé au Intuit Dome de Los Angeles pour le 30 janvier prochain.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup. Cyril, à lundi prochain.